see the Earth from space, it changes you. It changes your relationship with this planet, with humanity. It's one Earth. I want to go on this flight because it's a thing I've wanted to do all my life. It's an adventure. I invited my brother to come on this first flight because we're closest friends.
L'homme le plus riche du monde a encore des rêves. Sur Instagram, on entend la douce musique. Le patron d'Amazon fait du cheval avec son chapeau de cow-boy. Et quand Jeff Bezos propose à son frère une place avec lui dans sa fusée pour le premier vol spatial touristique, la caméra montre bien que le frangin ne s'y attendait vraiment pas. Prochain moment fort, aujourd'hui, la vente aux enchères pour avoir la troisième place dans la fusée. Tout ce qu'on sait, c'est que le gagnant, qui s'envolera le 20 juillet, sera au moins un millionnaire. En attendant de coloniser l'espace, et bien c'est sur Terre qu'Amazon s'étend. Hier, les droits de diffusion de la Ligue 1, arrachés à Canal, auparavant Roland-Garros. Il y a 15 jours, les studios MGM, des douceurs pour appâter de nouveaux abonnés à son programme de fidélité. Avec la pandémie, jamais l'entreprise de e-commerce de Jeff Bezos n'a été aussi puissante. Elle emploie 1 200 000 personnes sur la planète, 50% de plus qu'il y a un an. Alors oui, des syndicats dénoncent les conditions de travail, des élus s'indignent d'abus de position dominante, des petits commerçants s'indignent, des journalistes soulignent que Bezos ne paye presque pas d'impôts. Mais le mastodonte reste agile, soutenu par ses lobbyistes et ses clients, les particuliers et aussi les entreprises qui lui achètent du cloud. Jeff Bezos change donc les règles du jeu pour les citoyens et les États, ici et maintenant. Dans l'espace, ces règles, qui les écrira ? La question est posée dans l'excellent article d'Alexandre Picard dans le journal Le Monde. Je vous livre la devise de l'entreprise spatiale de Bezos, c'est du latin. Gradatim, ferociter, ça veut dire pas à pas, férocement.
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Bienvenue dans le Mag Éco, c'est par ici que nous allons parler ce samedi de notre alimentation, du capitalisme et aussi de la place des femmes à la tête des entreprises. Je vous dis vache qui rit, boursin, pompote, babybel, vous savez déjà ce que fait notre invitée, Cécile Belliot, la directrice générale adjointe du groupe Bell. Elle sera avec nous dès 9h35. Au fait, d'où vient le lait pour faire ses fromages et ses crèmes desserts? Eh bien, en coulisses, il y a une vraie bataille pour rendre ou pas l'origine du lait obligatoire sur les étiquettes. Nous entendrons le reportage d'Anaël Verzo. Vos questions de vie au boulot, Sandrine Foulon est avec nous. Bonjour Sandrine.
Bonjour Alexandra.
Dans la boîte aux lettres du Mag Éco, nous avons le mail de Martin.
Oui, alors Martin qui ne comprend pas cette pénurie de serveurs et de cuisiniers alors qu'on reste à un niveau de chômage élevé. Pourquoi ne les trouve-t-on pas ?
Martin, vous n'êtes pas tout seul à ne pas comprendre donc les réponses de Sandrine Foulon. Pour tous ceux qui s'interrogent, ça sera juste avant 10h. Mais tout de suite, l'actu, ce qui fait causer au bureau comme au dîner, c'est la réforme des retraites. Bonjour Christian Chavagneux.
Bonjour à tous.
Vous êtes éditorialiste à Alternatives économiques. Et bonjour Laurent Bigorgne.
Oui, bonjour Alexandra. Avec peut-être une correction, je pense que férocitaire veut dire audacieusement plutôt que férocement.
Flûte. Alors, la devise d'Amazon, gradatim férocitaire, pas à pas audacieusement.
Peut-être.
Bon, il est audacieux, alors féroce. Ok, j'avais vérifié, mais bon d'accord Laurent, vous êtes sachant. Vous êtes le directeur de l'Institut Montaigne. Avons-nous besoin d'une nouvelle réforme des retraites ? Pourquoi, pour qui ? Ça, c'est votre débat.
Le débat sur la réforme des retraites.
La réforme des retraites.
La réforme des retraites.
Emmanuel Macron s'interroge pour remettre la réforme sur le métier d'ici la fin du quinquennat.
Alors, faut-il vraiment remettre sur la table une réforme des retraites ?
Je ne pense pas que la réforme qui était initialement envisagée puisse être reprise en l'état. Je vais être franc avec vous. Par contre, est-ce que nous pouvons ne rien faire sur la retraite dans les mois qui viennent ?
Emmanuel Macron.
Est-ce qu'on a réglé le préalable à tout, qui est la question du travail et de la reprise d'activité ? Parce que je pense que c'est la mère des réformes. Pour moi, c'est la priorité absolue.
Ce serait une erreur de la part du président de la République de remettre ça sur la table. Il y a bien d'autres priorités.
Philippe Martinez.
Le résultat est le même, c'est qu'ils veulent nous faire travailler plus longtemps.
Secrétaire général de la CGT.
Donc, il faut rester mobilisé. En plus, je pense qu'il a envie de se représenter aux élections présidentielles et donc... Je pense que c'est plus un calcul politicien.
Les constats qu'on avait avant la crise sont toujours là.
Elisabeth Borne.
On a un système qui est très complexe, avec 42 régimes.
Ministre du Travail.
On a aussi un système qui est injuste, notamment qui est très pénalisant pour ceux qui ont des carrières hachées ou qui sont en temps partiel. Et puis, un déséquilibre structurel de notre régime. Il faudra bien y trouver des réponses.
10 milliards, ce sera le montant du déficit cette année, contre 13 l'an dernier, selon les chiffres du COR, le Conseil d'orientation
l'orientation des retraites.
Je voudrais vous rappeler que le 6 mai dernier, rencontrant le chef de l'État avec Richard Ferrand,
Gérard Larcher,
moi je lui ai dit, réforme des retraites, elle est indispensable.
Président du Sénat.
Ça doit être une réforme paramétrique dans laquelle il faut faire de la pédagogie. Il appartient au chef de l'État et au Premier ministre de décider quand est-ce qu'on l'engage.
Si on essaie de faire une réforme là, au mois de septembre, on risque de faire une réforme au rabais.
Geoffroy Roux de Bézieux.
Donc moi, ce que je dis, c'est qu'il faut une vraie réforme. C'est probablement 64 ans.
Président du MEDEF.
Et d'ailleurs, c'est pour moi un débat de la présidentielle, parce qu'il faut la légitimité de l'élection présidentielle pour faire une réforme difficile.
Si on veut qu'il y ait un retour à la normale,
Éric Heyer,
il faut éviter un peu tous ces signaux qui seraient, attention, les droits demain, que ce soit au chômage ou à la retraite, seront inférieurs.
Économiste à l'OFCE.
Donc je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur message qu'il faut mettre aujourd'hui pour relancer définitivement l'économie.
Christian Chavagneux, je me tourne vers vous. Les faits, rien que les faits. Nous avons eu le rapport du COR cette semaine. Que nous dit-il ? Avons-nous besoin de trouver de l'argent pour nos retraites ?
Alors effectivement, il faut rappeler que, pour pas que les retraites soient du latin pour nos auditeurs, qu'on est sur un système de répartition, c'est-à-dire qu'on prélève des cotisations une année et qu'on les reverse aux retraités. Et les experts du Conseil d'orientation des retraites, donc du COR, nous ont dit qu'avec le vieillissement de la population, on va passer de 1,7 cotisants par retraité aujourd'hui à 1,3 en 2070. Donc, de moins en moins de gens qui cotisent, il va y avoir un problème financier. Non ! Parce que ces experts nous disent, regardez, nos dépenses aujourd'hui de retraite, c'est équivalent à peu près à 14, c'est l'équivalent de 14% de la richesse produite chaque année. On va passer à entre 11 et 13%. On va perdre entre 1 et 3 points de PIB. Ça paraît un petit peu général, mais c'est énorme, en fait. 1 point de PIB, 3 points de PIB de moins de dépenses de retraite.
1 point de PIB, c'est 23 milliards.
Voilà, donc 3 points de PIB. Basculer de 1 à 3 points de PIB, c'est énorme dans une économie, en France comme dans les autres économies. Qu'est-ce que ça veut dire sur les besoins de financement ? Là encore, les experts du COR, j'en termine là, nous disent, on va faire 12 scénarios, parce qu'il y a 4 scénarios d'efficacité différentes de l'économie, et 3 scénarios selon que l'État continue ou pas à embaucher des fonctionnaires, payer des cotisations, etc. Sur les 12, ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'il y en a 9 où le régime de retraite est en excédent à moyen terme, en excédent, qui dégage plus d'argent.
À moyen terme, c'est quand, Christian ?
C'est entre 2030 et 2070, d'accord ? Et c'est ça qui nous intéresse sur la retraite, c'est pas les retraites de demain matin, c'est les retraites... S'il y a besoin d'une réforme importante, c'est parce que à moyen long terme, on a des problèmes de financement. Donc sur 12 scénarios possibles, 9 où on est en excédent, pas avec un petit besoin, en excédent. Et sur les 3 où pourrait y avoir un déficit, il est compris entre 0 et en gros un demi point de PIB. C'est-à-dire rien du tout. Le scénario central, c'est combien ? Il nous manquerait chaque année 14 milliards de déficit. Or, comme l'ont rappelé les gens du Conseil d'orientation des retraites, nous avons des réserves. Évidemment, on n'est pas fous en France. On a mis un peu d'argent de côté au cas où. Vous savez combien on a de réserves par rapport à ces 14 milliards par an ? On en a 160 milliards. Donc, il n'y a vraiment pas besoin d'une réforme pour des raisons financières.
Laurent Bigorgne, avez-vous fait la même lecture du rapport du Conseil d'orientation des retraites ?
Pas tout à fait, mais peut-être que je ne serais pas là si j'avais fait quand même. Le point, c'est que j'aimerais aller un cran plus loin dans la démographie. Quand on a pensé le système, dans les années 50, on avait 4 cotisants pour un retraité. Et là, on va vers un système, et Christian l'a très bien dit, on sera 1,3 cotisants pour un retraité en 2070. Et ça, c'est des projections qu'on connaît. La seule chose qui peut varier, c'est évidemment, par exemple, plus de flux migratoires dans notre pays qui pourraient inverser cette tendance. Et on sait bien qu'il n'y a pas consensus politique. À court terme, la situation financière, en gros jusque 2030-2035, elle est compliquée et elle est aussi rendue compliquée par ce qui vient de se passer. On redira peut-être tout à l'heure, mais l'année 2020, l'année 2021, c'est un épisode traumatique. On a tapé dans les réserves, le fonds de réserve dont vient de parler Christian, et qui sert justement à couvrir non pas un déficit courant, mais des situations d'urgence. On lui aura ponctionné 5 milliards l'année dernière, parce qu'évidemment, on avait un trou de 18 milliards, et qu'on a ramené ce trou à 13 milliards. À long terme, la situation, elle est à mon sens plus compliquée que la macro-vision financière, parce qu'il faut bien voir qu'en 2070, le taux de remplacement, qui est actuellement de 60% en France, va passer entre 31,5% et 36%. Et le COR ne cesse de nous dire, attention, bien sûr, on peut arriver vers une situation d'équilibre, la question est celle de l'acceptabilité de ce taux de remplacement, et j'en termine là, les Allemands sont en plein débat sur les retraites. Eux, ils estiment qu'un taux de remplacement inférieur à 48% n'est pas acceptable dans leur économie.
Alors, si je résume, parce que vous avez mis beaucoup de choses sur la table, si je comprends bien, on a du déficit, Christian, dites-moi, Laurent aussi, on a du déficit jusqu'en 2030-2035, scénario moyen, 14 milliards par an, et Laurent nous dit qu'en fait le sujet, c'est pas tant le déficit qui ensuite se résorbe, mais c'est combien les retraités toucheront de pensions. Et c'est ça, c'est le problème des petites pensions à l'avenir.
Il a tout à fait raison.
Problème de financement quand même, finalement. Problème d'argent.
Laurent, c'est que pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? C'est parce qu'on a déjà mis en œuvre des réformes qui sont en train de plomber complètement les retraités. Quand on passe de 50, le corps nous a dit 50% aujourd'hui, la pension brute c'est 50% de la rémunération d'activité en moyenne, on va passer à 30%. Vous voyez bien qu'on a ces excédents parce que on a détruit le pouvoir d'achat relatif des salariés, des retraités vis-à-vis des salariés. Donc c'est, ça va pas du tout.
Alors, pour l'instant, on n'a pas détruit. Hein. J'aimerais rappeler quand on regarde la situation des retraités français, c'est des gens qui globalement ont un niveau de vie meilleur que celui des actifs, ce qui peut évidemment interroger.
Non, aujourd'hui, Laurent, vous le savez bien que la perspective, c'est celui de détruire leur pouvoir d'achat relatif.
Aujourd'hui, à l'heure actuelle, le problème de pauvreté des retraités est, par exemple, trois fois moindre que celui des enfants dans notre pays. Et on est le système en Europe, un des systèmes les plus généreux, c'est-à-dire, et c'est très heureux, j'en suis content, on est un des systèmes où il y a le moins de retraités pauvres dans ce pays. La question pour moi, elle est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un système qui ment beaucoup. Pourquoi? Parce que, d'ores et déjà, un quart du système n'est plus assuré par les cotisations. Un quart du système, les fins de mois du système de retraite sont faits par l'État. Et c'est beaucoup un quart, parce qu'on n'est plus dans un système assurantiel. On est dans un système qui d'ores et déjà est imité par la fiscalité. Deuxième point, on a un État qui fait les fins de mois aussi sur tous les régimes spéciaux et les régimes de la fonction publique à hauteur de 2 points de PIB.
Quand vous dites fait les fins de mois, ça veut dire quoi?
C'est plus des cotisations, c'est de l'impôt ou du déficit.
Ou des emprunts?
Comment? Ou du déficit.
Ouais,
et donc, on a un sujet, c'est qu'aujourd'hui, on affiche facialement une situation d'équilibre. Et quand on va voir derrière ce qui se passe, on a quoi? Une baisse pour parvenir à cet équilibre du niveau de vie des retraités, je vais dans le sens de Christian, et un État qui fait les fins de mois du système. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en refusant de prendre des mesures d'âge plus vigoureuses, on a tout simplement laissé filer un certain nombre de déficits qu'on ne voit pas à l'œil nu.
Christian, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a consensus entre vous deux pour dire qu'il y a quand même un problème financier finalement? Que vous voyez, que vous ayez les mêmes raisons, est-ce qu'il va falloir trouver de l'argent pour notre système de retraite? Est-ce qu'on a le droit de se dire, comment on fait, Christian?
À réforme constante, c'est-à-dire en prolongeant les réformes qui ont déjà été mises en place par Sarkozy, enfin par Fillon et par Touraine, non. Les chiffres du corps sont clairs, on n'a pas de problème de financement du déficit.
Mais
on
les petites retraites?
Alors voilà, ce qu'il faut faire, c'est si on veut essayer de combler le problème des petites retraites, il faut essayer de les augmenter. Aujourd'hui, la petite retraite, une petite retraite, c'est à peu près 967 euros. D'accord ? Le gouvernement, dans sa grande générosité, avait promis de les monter à 1000 euros. 967 à 1000 euros. Waouh, quel effort ! Des syndicats, notamment la CFDT, nous disent qu'on devrait passer à 100% du SMIC et non pas 85% du SMIC, ce qui était en 2025, ce qui était prévu jusqu'à présent. Et qui a refusé que la règle des 85% du SMIC au minimum soit attribuée aux agriculteurs au moment où ça aurait dû le faire? C'est la majorité actuelle. Donc on voit bien qu'ils ne veulent pas faire d'efforts sur les petites retraites. Laurent nous a dit, on a des problèmes démographiques. D'accord, mais le corps nous dit que malheureusement l'espérance de vie est en baisse, chez les femmes comme chez les hommes, et donc il y aura moins de retraites à payer. Et puis attention, il y a d'autres facteurs qui jouent que la démographie. On peut jouer sur les salaires, on peut jouer sur la dynamique des salaires, on peut jouer sur les cotisations, on peut jouer sur le nombre et la rémunération des fonctionnaires. Voilà toutes les autres choses à faire aussi qui pourraient nous permettre d'avoir des retraites moindres. Plus importantes, pardon.
On en est au chapitre solution, et là vous l'ouvrez, Christian, vous dites qu'il y a d'autres façons de faire. Alors pour l'instant, on va repartir au début. Est-ce que nous savons, Laurent, ce que le gouvernement a en tête? Moi j'entends travailler plus longtemps, ça veut dire quoi?
Il y a deux leviers. Hein. D'abord, on ne sait pas ce que le gouvernement a en tête, ni même s'il va y aller. On disait bien ce qu'étaient les ambiguïtés de positionnement des uns et des autres. Mais c'est vrai qu'il y a deux leviers. Il y a un levier qui est de dire à quel âge je peux partir, à quel âge, par ailleurs, je peux toucher ma retraite au taux plein. Et on sait très bien que c'est le levier qui produit le plus. Hein. Et puis, il y a un autre levier qui est le levier de la durée de cotisation. C'est-à-dire, au bout de combien de trimestres j'ai le droit de m'en aller, qui est aussi un levier assez puissant. La question est de savoir maintenant quel panachage entre ces deux leviers, quelle accélération par rapport à des mesures qui ont déjà été décidées dans les dernières réformes, notamment celle de 2014, le gouvernement va choisir, avec une grande question qu'on a quand même, je pense, le devoir de poser, c'est de savoir si, quand on joue sur ces mesures d'âge, on crée du chômage supplémentaire. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans la lecture que j'ai pu faire du corps, c'est que, à court terme, évidemment, quand vous retardez l'âge, vous créez du chômage, mais qu'à moyen long terme, vous rééquilibrez votre situation avec un pays qui est devenu plus riche et qui a plus de PIB. Donc c'est travaux du corps sur la base du modèle de l'OFCE.
Ok, donc l'idée c'est travailler plus longtemps, une nécessité qui pour Laurent Bigorgne se justifie et en plus apporte de la croissance. Christian Chavagneux.
En désaccord avec Laurent Bigorgne, ce ne sera pas surprenant. Avec les réformes qui sont déjà en cours, pour avoir le nombre de trimestres qui vous permet de partir à taux plein, aujourd'hui il faut travailler à peu près 62,4 ans. Dès 2030, ce sera 64 ans. Donc c'est déjà là. Et en fait, quand vous faites pour les générations qui ont été un petit peu à l'école, ce sera 67 ans. Donc en gros, on ne pourra pas partir avant 67 ans. On peut toujours monter. On peut toujours dire que les gens doivent travailler jusqu'à 70, 75 ou 80 ans. Je ne pense pas que ce soit un modèle de société pour nous. Quand vous reculez l'âge de la retraite, Laurent l'a dit, les seniors, malheureusement, ne trouvent pas toujours du boulot. Et donc, comment ça se passe? Soit c'est les conjoints qui ont la chance d'avoir un travail et qui partagent. Vous aviez deux revenus pour deux personnes, mettons à deux enfants. Vous aviez deux revenus pour quatre personnes. Vous avez un revenu pour quatre personnes. Ça veut dire quoi? Moins de consommation, moins d'investissement, moins de croissance potentielle. Donc, vous diminuez la richesse du pays. Vous ne l'augmentez pas, contrairement à ce que dit Laurent. Si vous n'avez pas de conjoint, malheureusement, vous allez au chômage ou l'aide spécifique de solidarité. Donc, ce que vous gagnez d'un côté, vous le reperdez de l'autre. D'accord? Donc, ça sert à rien. Et enfin, aujourd'hui, quand vous prenez tous les Français, toutes les Françaises qui travaillent à temps partiel, qui travaillent à temps plein, vous faites le total des heures qui sont travaillées en France. Vous savez combien ça fait d'heures aujourd'hui? Ça fait 42 milliards d'heures. En 1960, vous saviez combien il y en avait? 42 milliards d'heures. Et pourtant, on a créé 7 millions d'emplois. Comment est-ce qu'on a fait pour travailler le même volume de travail depuis 50 ans? Et pourtant, on a créé 7 millions d'emplois. Comment on a fait? On a partagé le travail. On a réduit le temps de travail.
On a fait des gains de productivité technologique.
Dont on s'est servi pour quoi faire? Eh ben, pour réduire, pour partager le travail. Partage du travail égale plus d'emplois, égale plus de salaires, égale plus de cotisations, égale équilibre des régimes sociaux.
Partage du travail depuis 2000 égale effondrement de la compétitivité française. Moi, ce qui me frappe, c'est la convergence des études de l'INSEE, du corps, de la direction générale du Trésor à Bercy, pour dire que quand on parvient à faire de bonnes mesures d'âge, et il y a effectivement des clauses d'équité à respecter, on parvient à faire à terme plus d'emplois et plus de PIB.
Vous avez écarté, Laurent, des pistes qui seraient... Christian a cité d'autres pistes. Pourquoi est-ce qu'on reste sur cette mesure de travailler plus longtemps? Certains disent augmenter les cotisations. Pourquoi rien d'autre n'est possible?
Pour une raison simple, c'est qu'à la fin du jour, on est retraite. Christian disait très justement, on est presque à 15 points de PIB de façon très exceptionnelle en 2000, puisque le PIB a connu une baisse, donc on est monté à 15.
La part des dépenses publiques que nous consacrons...
La part de la richesse nationale.
La part de la richesse nationale.
Les retraites dans les dépenses publiques, c'est 25%. C'est 25%. Donc c'est une masse considérable. Il est normal que quand les dépenses publiques sont sous fort stress, sous fort questionnement, on aille vers, les poches de dépenses publiques dans lesquelles on estime, sur lesquelles on estime qu'elles vont avoir un rendement plus rapide pour revenir à la normale, pour permettre une stabilisation de la situation, sachant qu'il n'y a pas que les mesures d'âge, il y a les régimes spéciaux. Les réformes Sarkozy ont été un échec cuisant, la Cour des comptes l'a montré en 2009. On a donné plus qu'on a gagné, à court terme comme à moyen terme, et il va falloir avoir le courage de prendre de vraies réformes là aussi.
Les régimes spéciaux, c'est 1,6% des cotisants. Faut arrêter avec ce fillonisme
dire ça, c'est deux points de PIB. C'est 2 points de PIB.
La Cour des comptes nous a dit SNCF, RATP, EDF, GDF, c'est 5,5 milliards. Donc
5 milliards pour la seule SNCF, c'est pas des cacahuètes.
Dont 70% est dû à la démographie et dont 30% est dû à un régime spécial. Et si vous avez une carrière complète, vous pouvez avoir, c'est vrai, un petit peu plus. Mais comme les gens n'ont pas de carrière complète, ils ont moins. Donc il faut arrêter avec la réalité.
Avec le sentiment d'inégalité que ça crée.
Mais c'est un faux sentiment d'inégalité. Quand vous faites les comparaisons, vous n'êtes pas plus payé et vous partez pas finalement si tôt. Ça, lorsque
ans,
vous
avez... Christian,
non, ça ans. C'est l'âge théorique d'une carrière complète, et c'est pas la réalité.
Je crois que ce matin, vous n'arriverez pas à être d'accord, mais je pense qu'on a aussi beaucoup de temps devant nous pour revenir à ce dossier des retraites.
C'est qu'on n'est même pas d'accord sur les faits. Et oui. Là, c'est plus grave du côté de Laurent Bigorgne.
Ah, Christian.
Et réciproquement, Christian.
Ils vont continuer le débat dans le couloir, je le sais. Voilà ce qu'on pouvait mettre sur la table ce matin. À présent, messieurs, amis auditeurs, amis auditrices, je vous emmène voir ailleurs comment l'économie se transforme. Et nous prenons la direction de l'Italie. Ça fait bientôt 3 ans depuis la catastrophe du pont de Gênes. C'était le 14 août 2018.
Noi abbiamo fatto causa a questa società di proprietà della famiglia Benetton e anche allo Stato italiano, perché tante la posizione dello Stato italiano in questa faccenda ancora oggi non è chiarissima.
C'est le frère d'une victime de l'effondrement du pont qui parle. Emmanuel Diaz explique son action en justice contre la société d'autoroute qui appartient à la famille Benetton, mais également, dit-il, contre l'État italien dont la position pour lui n'est pas vraiment claire. Et bien depuis 24 heures, tout s'est éclairci. Bonjour Olivier Tosseri.
Bonjour.
Olivier, vous êtes correspondant de France Inter en Italie. Tout a donc changé hier, vendredi. Ces autoroutes contrôlées par les Benetton, elles sont désormais nationalisées, mais ça n'a pas été simple de les faire revenir dans le giron de l'État italien. Olivier, on peut dire que vous avez suivi 3 ans de guérilla.
Exactement, 3 ans d'une guérilla politico-industrielle qui vient donc de trouver son épilogue, celle qui oppose l'État italien et la famille Benetton. Dès le lendemain de la tragédie de l'effondrement du pont Morandi, le gouvernement exigeait déjà le scalp des Benetton et donc il l'a eu hier avec un consortium emmené par la Caisse des dépôts italienne avec des fonds anglo-saxons qui a repris 88% du capital de l'entreprise, de la société qui gérait les autoroutes, qui gère les autoroutes italiennes pour 9,3 milliards d'euros. Une offre qui a souvent été jugée insuffisante, mais les Benetton voulaient tourner la page. Ils ont vécu 34 mois d'une tourmente médiatique qui a ruiné leur réputation, d'enquêtes judiciaires qui ont prouvé de graves négligences concernant la sécurité et l'entretien des infrastructures, et puis surtout 34 mois de négociations tendues avec l'exécutif italien. Et le mouvement 5 étoiles, le parti qui les avait désignés comme pratiquement l'ennemi public numéro 1, exulte. L'effondrement du pont Morandi est une blessure indélébile, a déclaré le parti, et en enlevant la gestion à des personnes qui, par négligence, avidité ou plus simplement par envie de faire des gains sur la sécurité, ont économisé sur les contrôles, et bien on honore la mémoire des victimes et on défend l'intérêt public.
Olivier, qu'en pensent les citoyens italiens ?
Alors évidemment, la famille des victimes estime indécent que les principaux responsables de la catastrophe puissent tirer le moindre avantage financier économique qui soit, 9,3 milliards d'euros dans ce cas précis. Et puis elle pointe surtout du doigt les négligences de l'État sur la sécurité. Et ça, c'est un sentiment qui est partagé par la plupart des Italiens. Le réseau d'infrastructures est vieillissant et mal entretenu. Les effondrements se sont multipliés ces dernières années. D'après une récente inspection du ministère des Transports, 2000 viaducs sont à risque. 80% des tunnels autoroutiers du centre et du sud de la péninsule en particulier ne sont pas aux normes, et le gouvernement veut donc lancer un vaste plan de modernisation des infrastructures du pays en mobilisant notamment les immenses ressources du plan de relance européen qui vont bientôt arriver.
Olivier Tosseri à Rome, merci à vous. Merci aux débatteurs dont n'arrête pas l'écho, Laurent Bigorne et Christian Chavagneux, que l'on attend la semaine prochaine, même jour, même heure, en studio. Il est 9h35 sur France Inter et notre invitée, justement, vient d'entrer dans ce studio 521. C'est la directrice générale adjointe et bientôt directrice générale tout court du groupe Bell. Bonjour Cécile Belliot.
Bonjour à tous.
Alors Bell, c'est la vache qui rit, les pommes potes, le Babybel, un groupe familial toujours dirigé par la famille. 1200 salariés, plus de 3,4 milliards de chiffre d'affaires. Et donc vous, maintenant, l'opérationnel, la femme aux manettes dans l'industrie agroalimentaire, vous êtes une exception.
C'est vrai qu'on n'est pas si nombreuses que ça. Je sais que lorsqu'on regarde les chiffres sur le SBF 120, c'est 8% seulement des entreprises du SBF 120 qui sont dirigées par des femmes aujourd'hui. Et puis évidemment, tout le monde connaît les chiffres du CAC 40 où il n'y en a qu'une.
Il n'y en a qu'une, la patronne d'Engie,
absolument.
Catherine McGregor. Il y a une proposition de loi, Cécile Belliot, qui est en discussion au Parlement après les quotas de femmes dans les conseils d'administration. Il s'agirait d'imposer des quotas de femmes dans les instances de direction parmi les 4 dirigeants. Vous êtes, je vous vois hocher de la tête férocement.
Absolument.
Vous êtes pour ?
Ouais, moi je suis absolument convaincue que c'est ça qui fait bouger le système. D'ailleurs, ça a été prouvé sur les conseils d'administration, vous savez. Moi, j'ai entendu cette formule plusieurs fois, mais elle est très vraie, en fait. Quand il n'y a pas de quotas, les entreprises trouvent des excuses. Quand il y a des quotas, elles trouvent des femmes. Donc, on va faire en sorte que les entreprises tous des femmes. Et d'ailleurs, Bell est un très bel exemple, puisqu'il y a eu une vraie volonté, pour le coup, d'Antoine Fievet d'avoir un COMEX paritaire.
La 5e génération de la famille, oui.
Absolument, 5e génération. Et aujourd'hui, non seulement on est dans cette transition et le fait que je puisse passer directrice générale l'année prochaine, mais le COMEX de Bell est déjà paritaire aujourd'hui en termes d'hommes et de femmes.
Le comité exécutif. Absolument. Alors, Cécile Belliot, on va parler ensemble de notre alimentation. Et d'abord, pour entamer le sujet, je voudrais qu'on s'intéresse de plus près à cette bataille qui est en train de se jouer en coulisses au sujet des étiquettes et de l'origine du lait. Est-ce que l'inscription doit être obligatoire ? On écoute ensemble le reportage d'Anaël Verzo, on en discute après.
J'arrive à une supérette là à côté de chez moi. Et Alexandra, comme tu m'as demandé de faire ce reportage sur l'étiquetage des produits laitiers, eh bien je vais regarder les étiquettes. La laitière, ça appartient à Lactalis, la laitière. Lait origine France, c'est précisé. La crème brûlée, crème et lait origine France. Et le petit Louis, lait pasteurisé, origine Union Européenne. Là, c'est une mousse lactée à l'arôme naturel de vanille de Madagascar. Alors là, il n'y a rien d'écrit du tout.
Je continue mon petit tour et je vois que la plupart des yaourts vendus ici sont faits avec du lait français, mais que des préparations fromagères pour les enfants sont fabriquées avec du lait non français. Et parfois, l'origine des ingrédients n'est pas clairement mentionnée. Alors pour comprendre quelle est la réglementation sur les étiquettes et ce qui va changer, je vais voir Olivier Andrault, chargé de mission agriculture et alimentation à l'UFC Que Choisir.
Un fabricant a parfaitement la possibilité de vous dire yaourt, fromage, produits de dessert laitier fabriqués en France, alors même qu'une partie de ces ingrédients viennent d'ailleurs. C'est tout à fait légal. Et il ne sera plus obligé, en plus, de vous indiquer l'origine de ces ingrédients. L'industrie agroalimentaire, une des raisons qu'elle a mis en avant lors des négociations au niveau européen et au niveau français pour empêcher la mise en œuvre de la transparence sur l'origine des ingrédients, c'était la possibilité de pouvoir recourir à des ingrédients d'où qu'ils viennent dans l'Union européenne ou au niveau mondial, de manière à privilégier les matières premières les moins chères à un moment donné. Donc sans avoir à modifier ces étiquetages pour indiquer telle ou telle origine. Par exemple, de Nouvelle-Zélande, la poudre de lait néo-zélandaise, c'est une des poudres de lait les moins chères au niveau du marché mondial. Ça peut être aussi du lait frais qui peut venir, par exemple, de Belgique, parce qu'à certains moments de l'année, il peut être intéressant pour certains industriels qui veulent privilégier la matière première la moins chère à un moment donné. Nous avons vu que le déficit de réglementation européenne favorise les fraudes. On l'a vu, par exemple, avec la viande de cheval dans les lasagnes. Elle favorise l'extrême complexité des filières d'approvisionnement alimentaire et finalement, elle fragilise la traçabilité. Parce que à partir du moment où les acheteurs de l'industrie agroalimentaire, au lieu de se comporter en acheteurs mais plutôt en traders, ne sont plus en capacité de connaître la fiabilité de leurs fournisseurs quand il y a un nombre infini potentiellement de fournisseurs. Et ça, c'est dangereux déjà pour la qualité sanitaire des produits. Et puis aussi, ça va contre le mouvement de transparence généralisé que demandent actuellement les consommateurs sur ce qu'ils mangent.
Je crois qu'on peut dire qu'à l'UFC Que Choisir, ils sont très très courroucés. Et qu'est-ce qui met une association de consommateurs dans un état pareil? Eh bien, c'est un changement de réglementation. Alors, je vous explique. La France, c'est le deuxième producteur de lait européen après l'Allemagne. Depuis 2016, nous avions un décret qui imposait que l'origine du lait soit sur l'étiquette, y compris dans la liste des ingrédients. Mais il y a 3 mois, le géant Lactalis, celui qui fabrique les camemberts présidents, comme la mozzarella Galbani, le lait Lactel, a obtenu que cette obligation soit annulée. Comment comprendre ce recours? Quels sont les enjeux de l'étiquetage? Le responsable de la communication et des relations extérieures de Lactalis, Christophe Pied-Noël, a répondu à notre reporter, Anaëlle Verzeau.
Alors, vous venez d'obtenir gain de cause. Suite à votre recours, le Conseil d'État a annulé l'obligation d'indiquer l'origine géographique du lait utilisé en tant qu'ingrédient sur nos emballages. Pour quelle raison est-ce que vous avez fait ce recours? Vous ne souhaitez pas qu'on sache d'où vient votre lait?
Nous, ce qu'on a voulu faire avant tout, c'est protéger les producteurs français. Parce que quand la France souhaite que l'on indique l'origine France sur les produits, eh bien les pays européens font la même chose. Donc les pays, notamment les pays déficitaires en lait, je parle de ceux du bassin méditerranéen, on va dire l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ont pris le même type de disposition, ils étaient évidemment tout à fait fondés à le faire. Le résultat de ça, c'est que nos exportations de lait français vers ces pays ont chuté. Dans le pire des cas, ça a quasiment été réduit de moitié. Et ça continue à se réduire. Il y a un nationalisme alimentaire. Et donc, si vous obligez de mentionner l'origine du pays et que vous êtes dans un autre pays de la France et qu'il y a écrit dessus « Origine France », ça fait baisser les ventes.
Alors, je me mets à la place du consommateur qui est là dans un rayon de supermarché. Comment est-ce qu'il va pouvoir savoir désormais si le yaourt qu'il s'apprête à acheter est fait avec du lait français ou avec de la poudre de lait qui vient de Nouvelle-Zélande ? Est-ce que vous n'êtes pas en train d'amener de l'opacité là où il y avait plus de transparence?
Alors, non, je pense que sur ce point, je veux dire, 99,4% du lait qu'on utilise pour nos produits français vient de France et ça continuera. On peut vous garantir que Lactalis continuera d'acheter son lait en France pour ses produits français. Il y a aucune, franchement, absolument, enfin, c'est un fantasme que de penser le contraire.
Voilà, je viens d'arriver chez Sophie Lennart, qui est éleveuse. On est à Roy-Boissy, c'est dans le pays de Bray, à 30 km de Beauvais.
Bonjour.
Allez, on y va. Voilà les vaches.
Elles sont en plein air.
Ah, les petits veaux.
Elle est née avant-hier.
Ah oui.
C'est marrant, elle vous mordit le doigt.
Elle tète.
Elle tète, ah, elle tète. Regardez.
Comme elle le ferait à sa maman. Sa maman qui, le soir, elle est là en face. Hein, donc, certes, ils sont séparés parce qu'on a besoin de récolter le lait. Mais ils se voient en face à face. Hein, ils ne sont pas non plus...
Vous avez combien de vaches, Sophie, ici?
En ce moment, à peu près 80.
Et vous produisez, du coup,
790 000 litres, à peu près.
Sur un an?
Sur un an.
Ici, il n'y a pas de maïs transgénique, pas d'huile de palme?
Non, 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 non. Enfin, c'est... Nous achetons les graines de maïs que nous plantons. Moi, les déjections des vaches vont là, dans les fosses, ici, en dessous. Il y a 2900 m3 de lisier. Et c'est ce lisier que nous mettons comme engrais sur les terres.
Sophie, sa grande peur, c'est qu'avec cette mention de l'origine du lait qui ne sera plus obligatoire, ce soit la porte ouverte au lait étranger. Elle tient à ce que l'origine du lait soit clairement indiquée sur les produits.
Je trouve que c'est primordial. Parce que nous, pour éleveurs français, quand il y a du lait qui vient d'un autre pays, économiquement, ça n'a plus rien à voir. On n'a pas les mêmes charges, on n'a pas les mêmes subventions. La main-d'œuvre aussi, ces pays-là ont de la main-d'œuvre qui
pas
vient
cher.
D'autres pays pas cher. Donc on n'est pas sur la même ligne, on ne peut pas être concurrentiel. Donc c'est surtout ça, c'est surtout ça qui est important.
L'un des arguments de Lactalis pour faire supprimer cette obligation d'étiquetage de l'origine des produits laitiers, c'est de dire oui, mais nous on a perdu des parts de marché sur le lait qu'on exporte. Mais ils disent aussi que c'est pour soutenir du coup les éleveurs français.
Nous, on répète, et à la coordination, on répète que l'export n'est pas une finalité en soi. Vendre du volume pour pas gagner sa vie, parce que c'est souvent du volume à bas prix, des poudres de lait, des choses comme ça, ça n'a aucun intérêt. Vaut mieux produire moins pour des produits à haute valeur ajoutée que de partir à l'export pour brader ce qu'on produit et qui ne fait vivre personne. Moi, en tant que syndicaliste de la coordination rurale, je vous dis que pour tout le monde se porte bien, pour que les entreprises tournent, pour qu'on puisse entretenir, pour qu'on puisse chouchouter les bêtes comme on nous le demande, il nous faut 450 euros les 1000 litres, prix payé aux producteurs.
Au lieu des 330 aujourd'hui. Qui sont payés donc par le collecteur. Ouais. Donc, l'enjeu n'est pas tant sur le lait en bouteille, que sur les produits transformés, les plats tout préparés qu'on retrouve dans la restauration collective, la poudre de lait infantile, les glaces, les biscuits ou encore les viennoiseries. Tous ces produits transformés représentent tout de même 40% de la consommation nationale de produits laitiers et leur grande majorité, les deux tiers, sont constitués de produits laitiers qui sont importés. Je vais voir Gérard Hugh, agroéconomiste à l'Institut de l'élevage, qui suit de près ces importations.
Bonjour. Vous êtes Gérard Hugh?
C'est ça,
oui. Ah bah, enchanté, Anaëlle.
Très bien. Bon, bah écoutez...
Très bien, merci beaucoup.
Notre France laitière, elle produit 24 milliards de litres de lait, mais elle en consomme 21 milliards. Donc nous sommes légèrement excédentaires, mais nous exportons bien plus que cet excédent, puisque nous exportons de l'ordre de 40% de la production laitière. Et donc, dans le même temps, comme nous sommes dans un marché unique européen, eh bien, nous importons des pays voisins des produits soit que nous ne fabriquons pas ou qui peuvent avoir un certain avantage compétitif en termes de prix.
Et du coup, dans ce cadre-là, on comprend l'intérêt des industriels qu'il n'y ait pas d'obligation d'afficher l'origine géographique des produits.
Et oui, ce qui est clair, c'est que je pense que les transformateurs préfèrent que, on va dire, avoir le choix, la possibilité de mentionner ou pas, plutôt que d'avoir l'obligation. Parce que cette obligation, ça veut dire aussi d'avoir sans doute des espèces de comptabilité matière, d'avoir d'être sûr que toute la ressource, si c'est mentionné, soit vraiment certifiée d'origine française. Donc on peut comprendre que certains grands opérateurs gardent une certaine liberté en la matière, hein, puisque qui dit réglementation dit après contrôle et être sûr qu'il n'y a pas de dérapage ou qu'il n'y a pas d'incident. Hein.
L'origine du lait sur l'étiquette, une vraie bataille, c'était le reportage d'Anaël Verzo.
Tous les samedis sur France Inter à 9h10, on n'arrête pas l'écho, Alexandra Ben Saïd.
Et nous sommes toujours en compagnie de Cécile Belliot du groupe Fromager Belle. Alors Cécile Belliot, est-ce que vous, vos vaches qui rient, vos babybelles sont fabriquées avec du lait français? Et
absolument.
Est-ce que, surtout, vous considérez que ça doit être une obligation d'inscrire l'origine du lait sur les produits?
Alors absolument, tous les produits qu'on vend en France sont faits donc avec du lait d'origine France. En fait, je trouve que on pose pas la question de la bonne façon. C'est-à-dire qu'une réglementation, elle est là pour servir ce qu'attendent nos concitoyens. C'est ça la question.
Donc ils attendent de la transparence.
Évidemment. Évidemment que les citoyens attendent de la transparence. Et évidemment qu'on ne peut pas lutter contre ça. Et donc, la question qui est posée, hein, la réglementation, elle est au service de ça. Nous, on veut de la transparence, donc on affiche d'où vient le lait, que cela soit vendu en France ou que cela soit vendu, en fait, à l'étranger. Je considère que le concitoyen grec, il a le droit de savoir. Et d'ailleurs, si on lui dit pas, il ira sur des apps, il ira trouver l'information, mais il saura. Parce que ce qui est sûr, c'est que tout le monde, moi, vous, on a compris qu'on avait un pouvoir. Et ce pouvoir, c'est à travers ce que nous choisissons de mettre dans notre assiette, nous décidons du monde et de la société dans laquelle on a envie de vivre.
Alors justement, parlons-en. On entend aussi, donc j'ai compris, hein, l'origine, vous pensez que ça doit être obligatoire. On entend dans le reportage la société dans laquelle on vit. C'est la société où Sophie, l'éleveuse rencontrée par Anaëlle Verzo, se plaint encore du prix du lait, alors qu'on est 3 ans après cette loi alimentation qui devait réorganiser le partage de la valeur entre le producteur, l'industriel et le distributeur, c'est-à-dire les supermarchés. Cécile Béliot, vous êtes industrielle. Pourquoi ça marche pas? Qui ne joue pas franc jeu? 3 ans après.
Alors, déjà, je veux pas qu'on tombe dans la caricature parce qu'il y a des choses qui marchent. Il y a des choses qui bougent. Nous, ça fait 4 ans. Donc, on l'a fait 1 an avant la fameuse loi dont vous parlez, hein, les états généraux de l'alimentation. Nous, on l'a fait 1 an avant. Et ça fait 4 ans que chaque année, on échange avec notre association de producteurs, hein, qui se situe dans l'ouest de la France, et nous décidons en fait du prix du lait. Et ce qui était intéressant dans votre reportage, c'est qu'elle pose le bon sujet, c'est qu'est-ce qu'on vend? Nous, ce qu'on vend, c'est pas juste du lait, c'est la qualité du lait. C'est-à-dire ce qu'on a travaillé avec cette association de producteurs, hein, c'est comment on vous aide par une rémunération additionnelle, donc on met un certain nombre de primes, à transformer vos pratiques agricoles pour que l'agriculture ne soit pas l'enjeu du climat, mais devienne la solution du climat. Mmh. Donc ce qu'on propose aujourd'hui, par exemple, c'est un lait de pâturage, 150 jours de pâturage. Ce sont des vaches qui sont nourries avec une nourriture non OGM. Ce sont aujourd'hui des fermes pilotes pour qu'on ait des fermes bas carbone. Et en fait, la question, c'est la qualité du lait.
Et donc là, c'est un contrat, c'est ça? Un contrat entre vous, industriels, et vos 800 éleveurs?
Absolument, et sur lequel on donne de la transparence. Avec... Nous, ça fait 4 ans qu'on donne une transparence totale sur ces accords. Et d'ailleurs, pour vous prouver que le monde change, on a réussi aussi à faire des accords très différent avec quelqu'un comme Intermarché, et à chaque fois on l'a annoncé, c'est-à-dire que nous avons donné la visibilité de bout en bout, Intermarché nous a accompagnés, on n'a pas été dans une logique de négo, on a été dans une logique de revalorisation.
Ça coûte
donc
plus cher.
Donc il faut pousser ça.
Ça coûte combien?
Bien
plus cher?
Bien sûr que ça coûte combien plus cher. Ben, je vais vous donner des chiffres. Depuis 3-4 ans, donc l'année dernière par exemple, on a payé le lait 11% plus cher que la moyenne du marché. Ça fait un gap concurrentiel entre 15 et 20 millions d'euros pour nous.
Et qui paye au bout du compte, Cécile Béliot? Évidemment, c'est toujours la question, est-ce que c'est vous qui réduisez vos marges? Est-ce que c'est Intermarché qui réduit ses marges? Ou bien est-ce que c'est le consommateur? Parce que c'est lui qui est en bout de chaîne. Est-ce que ça fait de l'inflation?
La seule façon de rendre le modèle totalement durable, c'est de pouvoir valoriser ça. C'est de pouvoir faire savoir. Parce que moi, j'ai l'intime conviction que vous, moi, nos concitoyens, ils sont prêts à payer pour une agriculture différente. Ils sont prêts à payer pour des agriculteurs qui ont des revenus qui leur permettent, encore une fois, de s'atteler au problème du bien-être animal, de s'atteler au problème du climat, de s'atteler au problème de la qualité du lait par la qualité de l'alimentation que je donne à la vache. Et ça, ça se valorise. Je vais vous donner un chiffre parce que je pense qu'il est intéressant. Il y a 50 ans, on dédiait 30% de nos revenus à l'alimentation. Aujourd'hui, on ne dédie plus que 17%. Mmh. La question, c'est, maintenant qu'on sait que l'alimentation, c'est notre santé, que l'alimentation, c'est l'avenir de notre planète. En fait, quand on parle d'inflation, vous avez vu aujourd'hui, l'ANIA parle beaucoup d'inflation.
Oui, les industriels, je ne sais pas si vous en faites partie, demandent une augmentation des prix de l'alimentaire de 9%, parce que tout explose, les prix des matières premières, l'emballage.
Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Nous, on n'a pas eu une démarche proactive pour le moment. Évidemment qu'on va regarder ça avec beaucoup d'intérêt. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, aujourd'hui, il y a des phénomènes, vous l'avez vu, les gelées, par exemple, qui ont lieu au printemps, vont faire que le prix des fruits va augmenter.
Donc les pommes potes, ça va augmenter
moment,
sans doute?
Bah évidemment, c'est-à-dire qu'à un moment, c'est pas miraculeux. Mais encore une fois, la question, c'est quand on dit 9 ou 10%, ça fait quoi?
9 ou 10%
d'augmentation, c'est ce que l'ANIA disait. C'est 2 euros par mois.
Cécile Belliot, tout à fait, mais là jusqu'à présent vous me dites donc, il y a des augmentations pour rémunérer le producteur parce qu'il y a des gelées, etc. Mais là vous ne me parlez que du consommateur, est-ce que c'est vraiment à lui, est-ce qu'on n'a pas de problème de pouvoir d'achat, ou est-ce que l'actionnaire doit faire aussi son chemin, par exemple dans une société ou dans une entreprise?
Alors, nous, en tout cas, nos actionnaires, c'est vrai qu'on a la chance d'être dans une entreprise familiale. Donc, dans une entreprise familiale, on aborde évidemment les choses différemment. L'obsession d'une entreprise familiale, encore une fois, on le disait, Antoine Fievet, c'est la cinquième génération de dirigeants familiaux. Les seules questions qu'il me pose, c'est est-ce que tu prends une bonne décision pour que cette entreprise soit encore là dans cinq générations. Donc c'est vrai qu'on est dans le long terme, c'est vrai qu'on a la capacité et qu'on s'est dit j'absorbe ces 15 ou 20 millions de gap concurrentiel.
On ne peut pas toujours garder les mêmes marges. Est-ce que les actionnaires doivent s'habituer à avoir des marges moindres aussi?
Je ne sais pas si c'est des marges moindres parce qu'il y a une chose qu'il faut bien comprendre en fait quand on parle d'un capitalisme responsable et durable. Je pense que ce n'est pas le bon débat quand on oppose en fait la rentabilité avec une démarche responsable. En fait, on a besoin des deux jambes. Et pourquoi on a besoin des deux jambes? Parce que cette responsabilité dont on parle, elle demande de l'innovation, elle demande de la transformation, elle demande des investissements dans nos usines pour que ces usines deviennent bas carbone. C'est de l'investissement dans, encore une fois, ce que font nos agriculteurs pour se transformer. Donc on a besoin de performance. Et ce qui est intéressant, c'est que la responsabilité va venir nourrir la performance parce que je suis convaincue que c'est un avantage compétitif à moyen terme aussi. Parce qu'encore une fois, nos concitoyens, ils sont prêts à payer pour.
Allez, la dernière question. Alors, vous avez mentionné le mot climat plusieurs fois. Vous pensez que là, on est en train de vivre une révolution, que vous allez devoir vous adapter? Vous êtes en train de vous préparer à indiquer aussi l'empreinte carbone sur vos produits?
Oui, je suis absolument convaincue que l'enjeu du climat, il est majeur aujourd'hui. Je suis la première génération de dirigeants qui sait. Il y a 20 ans, on ne savait pas. Moi, je sais aujourd'hui que l'agriculture, les pratiques agricoles et les pratiques d'exploitation des forêts, c'est un quart des émissions carbone de la planète. C'est plus que l'ensemble des transports. Je vais vous donner donc la façon d'y répondre, c'est un, on change les pratiques agricoles parce que c'est une solution. Deux, on travaille sur le gaspillage alimentaire. Nous, on a la chance de proposer des portions, c'est zéro gaspillage. Trois, on travaille sur l'équilibre de ce qu'on met dans l'assiette entre protéines animales et protéines végétales.
Et c'est s'adapter ou mourir? C'est s'adapter ou être disrupté?
C'est sûr.
Cécile Belliot, la directrice et générale adjointe du groupe Bell, merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Ma vie au boulot avec Sandrine Foulon. Alors Sandrine, Martin vous écrit. Il se réjouit, Martin, de l'ouverture des terrasses, mais il s'inquiète de savoir qui pourra lui apporter des cafés? Pourquoi cette pénurie de serveurs et de cuisiniers, vous demande Martin, alors qu'on reste à un niveau de chômage élevé?
C'est vrai Martin, quand on dit qu'on cherche serveurs, commis, cuisiniers désespérément, c'est bien le mot. L'UMI, la Fédération Patronale de l'Hôtellerie-Restauration, estime que 100 000, voire 140 000 postes manqueraient à l'appel. Il faut dire que le confinement et la fermeture des restaurants n'ont pas aidé. Des salariés ont vu leur CDD s'arrêter net. Quant à ceux qui étaient en chômage partiel, ils avaient la possibilité de travailler ailleurs. Ça a donné des idées à beaucoup qui se sont reconvertis dans la construction, le nettoyage, le codage informatique. Certains ont repris des études et c'est logique. Selon une étude du CEREC, qui reste d'actualité sur l'insertion des jeunes dans la restauration, la part des moins de 25 ans y est deux fois supérieure à celle de l'ensemble des secteurs de l'économie. Et l'éternel problème, c'est que trois ans après avoir travaillé dans les cuisines et les hôtels, ils ont tendance à rendre leur tablier pour faire autre chose. Les pénuries de main-d'œuvre ont toujours été importantes, mais elles sont aussi plus visibles aujourd'hui parce que des politiques d'exonération de cotisations sur les bas salaires ont rendu le travail au noir beaucoup moins attractif dans ce secteur, ce qui a fait gonfler le stock officiel d'offres d'emploi.
Mais Sandrine, ça ne répond pas à la question de Martin qui ne comprend pas pourquoi les demandeurs d'emploi n'occuperaient pas ces postes vacants.
Parce que même si les deux tiers des recrutements de débutants concernent des jeunes non formés aux métiers de ce secteur, il y a aussi besoin de profils pointus. Tout le monde n'est pas top chef. C'est également une filière qui a besoin de balayer devant sa porte. Les conditions de travail et de salaire n'y sont pas toujours optimales. Les lieux touristiques peinent à embaucher, mais comment s'y loger quand on est payé au SMIC? Certains professionnels le reconnaissent, il faut revaloriser les métiers, les formations, les salaires. Dans la restauration, avoir un bac pro ou un CAP conduit aux mêmes emplois pour un différentiel d'une trentaine d'euros par mois, si on applique les minima de branche, c'est sans doute pas suffisant pour encaisser des horaires décalés les soirs et les week-ends. Bon, Martin, nous ne sommes pas seuls à connaître des difficultés à embaucher. Aux Pays-Bas, en Espagne, Floride, Chine ou Corée, des restaurateurs font appel à des robots serveurs. C'est pas aussi sympa qu'un bistrotier qui vous demande sur quel pinot noir vous voulez aller. Mais apparemment, ces machines qui ne réclament ni pourboire ni heure sup pourraient en séduire quelques-uns.
Ah, vous êtes un peu désespérante, Sandrine Foulon, ce matin. Sandrine Foulon, ma vie au boulot.